France Culture la Nuit, un patrimoine radiophonique.
Au sud des États-Unis, en Louisiane, environ 7% de la population parle une des formes possibles du français. Le pourcentage de francophones y serait d'ailleurs plus élevé qu'au Canada anglophone. C'est un Français qui découvrit la Louisiane, et les liens entre ce pays et la métropole restèrent intenses malgré une histoire plutôt mouvementée. Cette émission, diffusée sur France Culture en 1996, a été produite par la radio suisse romande, dont nous saluons ici et bien amicalement ce beau travail d'enquête sur le français plein de verve et de saveur, parlé en Louisiane et qu'on appelle le cadien.
Ça, c'est des petites tartes aux pacanes. Des pacanes, c'est un noix qu'on profite autour d'ici, sur un arbre. Là, quand ça mûre, ça tombe et là, ça
ici, on n'a presque pas dit notre français. Parce que c'était montré que c'était basse classe pour être cadien, pour être français en anglais.
C'est impossible de vivre en Louisiane sans parler anglais. On est aux États-Unis, mais on essaie quand même de faire de la place pour le français, de trouver cette place pour le français en Louisiane.
We had some kids from Opelousas, Louisiana, which is the heart of the Cajun country. And there was no correct spelling of the Cajun.
Je suis acadien, ma femme est polonaise et mes petits sont américains. On dit ici, dans le sud de la Louisiane, un homme qui parle deux langues veut vos deux hommes.
Nous sommes des francophones, toujours en Amérique, qui approche le 21e siècle, et il y en a encore 260 000 ici en Louisiane qui vivent en français. Et on est toujours des cousins avec des Français, des Suisses, des Belges, des Québécois, des Africains, des Haïtiens. Alors on partage toujours cette francophonie internationale, mais c'est différent. Et comme on dit, vive la différence.
La Louisiane est bornée à l'est par la Floride et la Caroline, au nord-est par la Virginie et le Canada qui en est éloigné de 900 lieues. Au nord, les bornes n'en sont pas connues. Quoi qu'il en soit, la Louisiane n'a peut-être point d'autres bornes au nord que le pôle arctique. Du côté de l'ouest, les limites n'en sont pas connues. Cet empire a pour cœur un fleuve nommé Mississippi par les sauvages. Les Français l'appellent le fleuve Colbert et les Espagnols Del Rio Escondido, la rivière cachée parce qu'ils avaient cherché longtemps son embouchure. Chevalier de Tonti, 18e siècle.
Une fois que vous le connaissez, il n'y a pas une autre place comme la Louisiane.
Il faut aujourd'hui encore bien du temps et souvent plusieurs avions pour rejoindre d'Europe la Louisiane qui doit son nom à Louis XIV. Nous avons atterri depuis Atlanta à la Nouvelle-Orléans pour nous rendre en voiture plus à l'ouest. Saint-Jean-le-Baptiste, Ascension, Baton Rouge, Opelousas, pour arriver à Lafayette, au cœur du pays cajun, là où l'on parle encore le français, un Français qui partit de France a transité par l'Acadie avant de s'installer dans cette région du sud des États-Unis d'Amérique. À Lafayette, où les noms des rues sont bilingues, et surtout dans les petites villes des alentours, la culture cadienne, cajun, se porte bien. C'est une façon de vivre, en famille surtout, une façon de vivre empreinte de catholicisme et de morale, colorée par une musique spécifique et agrémentée d'une cuisine relevée et devenue célèbre. Nous avons sillonné les petites routes bien entretenues du coin, les bayous magnifiques et mystérieux, et rencontré au gré du hasard et des amitiés, des Cajuns, on dit aussi des Cadiens, qui nous ont raconté leur pays d'Amérique du Nord, qui se veut à la fois intégré et différent, et où le français, après une éclipse due aux lois qui voulaient imposer l'anglais, semble se revitaliser à travers une culture qui vit et qui se vit.
Il a 12 ans, mon fils. Lui, ça sera mon petit cadien, parce que lui, il va parler français mieux que Dad a jamais pensé, chouette.
Charles Larocque.
Le français en Louisiane, c'est, je crois que la meilleure analogie, ça serait comme nos plats nationaux, le gumbo. C'est un mélange de beaucoup d'influences, beaucoup d'ingrédients, et qui a une saveur assez piquante des fois. C'est surtout le français de la France, les premiers français qui sont venus via le Québec. Donc les explorateurs tels que La Salle, Iberville, Bienville, plus tard Saint-Denis. Tous ces Canadiens français, ces coureurs de bois, il y avait leur français qui était riche déjà grâce à l'influence autochtone du Canada. Exemple, le mot pour grenouille, ici aujourd'hui on dit wawaron, et on dit que c'est cajun, mais ça vient des Algonquins, des Indiens au Canada. C'était les coureurs de bois canadiens français qui sont descendus avec déjà leur terminologie. Alors, ça a mélangé avec les aristocrates de la France qui se sont sauvés en Louisiane, surtout à la Nouvelle-Orléans. Il y avait des endroits ici dans la paroisse Saint-Martin, ce qui appelait avant le poste des Atakapas, la tribu indienne, les Atakapas. Le village ou la petite ville de Saint-Martin, c'était, on l'appelait le Petit Paris. Et en effet, il y avait beaucoup de familles assez bien, des cultivateurs de canne à sucre, des maisons de plantation, où ils parlaient un français assez éduqué, si on veut, parce qu'il y avait les moyens pour éduquer leurs enfants dans la langue française. Et en même temps, il y avait bien sûr l'arrivée des esclaves de Saint-Domingue après la Révolution. Le pauvre Napoléon a été chassé par Toussaint Louverture. Donc beaucoup de Noirs des Caraïbes sont venus en Louisiane. Et puis avec eux, ils avaient leur créole. Donc déjà, il y avait une autre influence, non seulement linguistique, mais surtout culinaire, avec les ingrédients tels que le gombo, justement. Et puis... après ça, il y avait les Acadiens qui ont été déportés de l'Acadie du Nord. Donc, eux, il y avait leurs expressions typiques des régions en France, telles que la Normandie, la Picardie. Exemple, ici, en Louisiane, on dit, pour crevette, on dit chevrette, comme les gens en Picardie. Et puis, il y a bien des expressions qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, là. Ces gens-là, ils étaient plutôt isolés, le long des bayous et le fleuve Mississippi, et plus tard, les prairies de la Louisiane, le sud central et sud-ouest de la Louisiane. Donc, leur langage était mieux conservé à cause de l'isolement. Et encore, les francophones noirs, ce qu'on appelle ici les créoles noirs, eux, ils ont mieux préservé leur langue aussi parce qu'ils étaient encore plus isolés, non seulement physiquement, mais culturellement. Et après les Acadiens, ou un peu avant, puis après, c'était les Allemands. Il y avait beaucoup d'Allemands, des Irlandais, des gens encore de la France qui venaient toujours. Mais bien sûr, avant tous ces gens-là, il y avait les Amérindiens. Et il y a beaucoup de termes comme wawaron, là, pour la faune et la flore, là, des noms de poissons, choupic, je crois, c'est indien. Alors c'est ça, c'est un mélange de bien d'influences. Et puis aujourd'hui, même en anglais, quand on parle en anglais, on parle avec un accent de cette influence-là. On dit que c'est un accent français, mais c'est plus que français.
C'est lui qui avait fait ça?
T'as jamais entendu parler cajun? Moi, je parle cajun. Si je vais chez lui et je veux vendre l'assurance et il parle cajun, on va parler pareil comme lui. À mon temps, je m'occupe, mon vini, mais la went in a game. M'occupe, mon vini, that's Cajun French.
Non, ça c'est pas français cajun, français créole.
Moi, je peux parler ou bien. Moi, je peux parler ou je peux parler. Moi, je peux parler. Moi, je peux parler n'importe quelle langue, les deux. Right. Je parle anglais, right. Oui, d'après 6 ans. J'avais 6 ans quand je parlais l'anglais.
Oh,
Est-ce que ces différentes communautés, cadiennes, créoles, amérindiennes, etc., se fréquentent, s'interpénètrent, ou bien est-ce que chacun vit dans sa communauté ?
Aujourd'hui, c'est surtout une question de race plus que d'ethnie. Le phénomène du creuset américain a fait que toutes ces communautés, ces groupes ethniques se sont amalgués ou assimilés là, dans une culture aujourd'hui qu'on appelle américaine. Mais dans cette culture américaine, il y a des cultures distinctes. Pour les Acadiens, il y a une fierté d'être Acadien. Ils parlent une langue qui, on appelle ça le français cajun, même si c'est très influencé par le français créole, souvent, et encore d'autres influences. Mais les Espagnols, il reste plus de communauté espagnole en Louisiane. Ça, c'était des gens qui ont été assimilés par des Acadiens. Alors, les Acadiens étaient vraiment la force assimilatrice en Louisiane. Même les Allemands, avec des noms Zombrecker, Hofbauer, ils parlent français. C'était vraiment la force des Acadiens, ces gens-là qui ont vaincu les obstacles du pays qui était rude pour eux, là. Et tous les autres groupes ethniques qui sont venus après, là, ils se sont assimilés aux faits acadiens. Alors, il y a des gens qui s'appellent Smith ou Abshire ou Leblanc ou Romero, Viator, qui se disent Cajuns aujourd'hui.
Et vous, Charles Larocque, d'où venez-vous?
Moi, je viens d'un village qui s'appelle Jeanneret, dans la paroisse d'Ibéry. Et côté de ma mère, ça vient des Canadiens français. Côté de mon père, ma grand-mère était française. Du nord de la France, près de Meaux. Et mon grand-père était première génération français. Ses parents venaient du sud de la France. Donc, c'était des Français qui ont émigré pour venir en Louisiane pour travailler avec l'industrie de canne à sucre. Mon arrière-grand-père était un forgeron, puis fabriquait des roues pour des wagons pour ramasser la canne.
En français.
Oh ouais, c'est la langue. Excuse-moi.
Ouais, c'est la langue, mais c'est
parce que
j'ai jamais
trouvé ça drôle. Dis, mais quoi, il a parlé en français.
Mais il y a quelques petites affaires. Regarde, je vais te montrer. On a mis la page des enfants sur les écrivains.
La plupart des titres sont en français et puis les textes sont en anglais.
Ouais, c'est un peu un mélange parce que les franco-louisianais ne lisent pas le français.
Ouais. Well, on a assez...
Pas encore, mais ils
petit
vont.
À petit.
Nous, on a assez de tracas à parler. On peut bien moins écrire et lire, mais moi, j'ai appris à essayer. Là, je peux lire en anglais et le dire en français. Mais tant qu'à pouvoir lire en français et le dire en anglais, il n'y a pas de moyen.
Au centre de Lafayette, dans un bâtiment vieux et beau, se trouve le Codophile, au lieu de travail et de rencontre pour tous ceux qui sont, en Louisiane, attachés à la langue française. Le Codophile, financé en partie par l'État, organise des fêtes, des festivals, imprime des t-shirts militants et a mis en place une importante infrastructure qui permet d'enseigner le français à plus de 8000 étudiants, sans compter les classes d'immersion très en vogue. C'est ici que nous avons rencontré une jeune femme discrète qui un jour a décidé de resserrer ses liens avec la communauté francophone.
En anglais, mon nom c'est Jolene Adam et en français c'est Jolene Adam. Mon nom s'écrivait Adam avec S à la fin depuis que mes grands-parents sont partis à l'école. La maîtresse d'école a écrit leur nom avec un S pour angliciser le nom. Et puis, en faisant des recherches généalogiques sur ma famille, j'ai vu qu'il n'y avait pas de S. J'ai décidé de changer mon nom encore, enlever le S. J'ai décidé d'étudier le français et de faire des efforts pour apprendre le français cajun. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai changé mon nom, c'était complètement naturel. Je croyais que peut-être après, 3 jours, 4 jours après, j'allais me sentir un peu bizarre ou ça allait sembler un peu drôle. Mais pas du tout, pas du tout. En plus, mes parents Surtout ma grand-mère était contente. Quand j'ai appelé là-bas pour dire « Maman, je vais changer mon nom, je vais enlever le S », je croyais que peut-être elle allait dire « Mais pourquoi Adam avec S, c'est bon assez pour tous nous autres, c'est pas bon pour toi ?» Mais par contre, elle m'a dit « Mais ça, c'est bon et on devrait tous nous changer nos noms, c'était pas juste. »
Est-ce que vous vous sentez américaine?
Un peu, un peu. Américaine et cajun à la fois.
Vous vous sentez de la même communauté, par exemple, qu'un Américain de Californie ou de New York?
Non. Well, j'ai passé du temps en Californie. J'ai vécu en Californie pendant 6 ans. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai resté à Berkeley, où j'ai complété mon BA. Et j'ai bien aimé Berkeley. J'aime bien la ville. Mais c'est une autre place, une autre identité. Il y a des valeurs, des priorités que j'aime bien à Berkeley, les valeurs de communauté, de liberté. Je trouve que c'est les mêmes valeurs qu'ici.
Et ici, quelles sont les autres valeurs qui vous distinguent du reste de l'Amérique?
Ici, peut-être, c'est l'importance de la famille. Peut-être dans un autre endroit, aux États-Unis, quelqu'un comme moi... qui termine ses études, va dire « Mais je vais rester dans un autre état pour mieux faire ma vie, où l'économie est meilleure qu'ici. Mais en Louisiane, comme la famille est beaucoup plus importante, on va hésiter peut-être avant de prendre cette décision-là. On va se dire que c'est ici ma famille, c'est ici mes racines, c'est mon monde ici. Alors, ça c'est plus important peut-être que une carrière ou faire beaucoup d'argent dans un autre endroit. Selon la tradition, les Cajuns travaillaient pour vivre, mais pas pour faire mieux que son voisin, quoi. Pas pour faire plus, pour faire mieux, pour se vanter, juste pour vivre et vivre, bien vivre, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes nombreux, nombreuses, comme vous, à revenir aux Français, à changer le nom? Est-ce que chez les jeunes, aujourd'hui, il y a un mouvement?
Oui, je dirais qu'il y a un mouvement. On voit les jeunes de 16 ans, 17 ans qui s'impliquent dans le mouvement, qui parlent français, qui revendiquent leur héritage. Et puis en plus, avec les jeunes dans les programmes d'immersion, c'est beau voir ça parce que déjà, il y a des jeunes au lac Charles. Je crois que cette année ou l'année qui vient, qui vont terminer leurs études. Ils vont sortir de l'école et ils ont fait toutes les 12 années en français. Et ça, c'est beau, c'est nouveau.
Vous venez ici tous les mercredis matins?
Oh, mais oui, on essaye de venir aussi souvent qu'on peut pour pratiquer notre langue.
Et ici, c'est le café où les Cadiens se retrouvent toujours?
Oui, le Dwarves Café. C'est un café qui est très reconnu ici.
Qui c'est qui se réunit là le matin?
Ah, on a des gars comme Lestat Gauthier, le juge Michaud, Hélène Boudreau et tout ce, oui.
Et de quoi vous parlez?
On parle de toute chose, la politique, on parle de la généalogie, on parle de notre belle histoire, notre culture, oui.
Pas beaucoup de femmes chez vous?
Oh oui, seule, on a des belles femmes, oui.
Oui, mais elles sont
ils
où?
Ils préfèrent le couche-couche. Ouais. Ils n'ont pas pu venir ce matin.
Et c'est quoi le couche-couche?
Oh, le couche-couche, c'est comme un céréal. C'est comme du cornflakes, mais c'est beaucoup mieux que du cornflakes. On a tous les ingrédients naturels. C'est pour ça que tu vois, on a tous des...
À quelques pas du Codophile, juste en face d'un immense mur orné d'une fresque aux couleurs vives, se dresse le Dwyer's, qui dans un tout autre genre, est aussi une institution. C'est le café où se réunissent, pour le petit déjeuner de préférence, les Cadiens. Autour de leur table, tout se passe en français cajun bien sûr. On y parle de politique, des problèmes de tous les jours, on rit beaucoup, on chante aussi. Vers 8h le matin, la réunion bat son plein. Nous nous joignons au groupe, nous commandons œufs brouillés, jambon, café et surtout le célèbre biscuit, sorte de petit pain sucré de chez Dwyer's.
Oui, je suis un régulier.
Vous êtes un habitué.
Oui.
Il est avocat à l'Est Gautier.
Oui.
Est-ce que parfois des Américains de langue anglaise se joignent à vous ici au Café Dwyer's?
Des fois. Et on parle les deux langues. C'est dommage que nous, Acadiens, aient été éduqués seulement dans la langue anglaise. Et alors, notre français, c'est une langue parlée et pas écrire. Et c'est dommage.
Mais par exemple, ici à Lafayette, est-ce que c'est possible à la cour de demander à ce qu'un jugement se fasse en français?
Non, c'est dommage. Mais parce qu'en faire les affaires en cour en anglais. Mais des fois, j'ai des clients qui ne peuvent pas parler anglais bien. Et alors, on use un traducteur. La majorité des juges parlent seulement l'anglais.
Alors, je vous remercie. Je vous laisse prendre votre petit déjeuner tout à fait traditionnel, puisqu'il y a le biscuit, oui, le thé, oui, le café.
Oui. All right.
Là, ça ne peut pas manquer, déjeuner sans une excuse.
Après ce petit déjeuner qui réveille, retour au codophile auprès de sa directrice, Earline Broussard, qui a une idée très précise de ce qui caractérise les Cadiens.
Moi, j'aime dire que les Cadiens ont une mémoire génétique. On dit souvent que c'est tout à fait une réalité, le fait d'avoir une mémoire génétique. Et je reconnais ça dans les gens. Ils sont très méfiants des institutions, du gouvernement. On me dit toujours que les Acadiens, ici devenus Cadiens, n'aiment pas trop les écoles, ils n'aiment pas le gouvernement, ils sont des individualistes, ils sont des pionniers, ils sont des gens très déterministes, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. On dit ça des fois, ils sont tête dure, mais c'est ça que ça fallait pour pouvoir survivre dans une nature assez forte, assez dure. Et la culture qu'on voit aujourd'hui, c'est une culture qui est quand même, qui essaye de confronter l'assimilation qui se passe. Pendant assez longtemps, les Cadiens ont resté séquestrés et un peu à part de toute cette société américaine. Moi, j'ai appris le français comme première langue. Chez moi, mes parents étaient récolteurs, assez pauvres, de la campagne. Et puis en plus, ils voulaient absolument que je parle en français. J'ai commencé l'école et puis après, j'ai commencé à apprendre l'anglais. On m'a dit, « Oh non, toi, tu dois parler comme nous autres. Quand tu embarques sur le transfert, tu parles l'anglais. Tu parles comme les Américains. Mais quand tu arrives ici, il faut que tu parles comme nous autres. » Il y avait ce désir-là. Mais néanmoins, il y avait tout à fait une identité différente. Ils étaient tout à fait bien dans leur peau et ils voulaient être différents. Ils étaient contents de leur identité et ils voulaient quand même, souvent, la plupart du temps, que leurs enfants comprennent. Mais les gens qui sont plus âgés, ils ont eu des vrais vécus en français la plupart de leur vie et ils sont capable de transmettre la culture toujours. Ce qu'on trouve, malheureusement, c'est qu'il y a eu une génération qui a été perdue linguistiquement. Parce que les gens de l'âge de ma maman ont été punis et battus à l'école. On interdisait qu'ils parlent français sur le terrain de l'école.
Ah, j'aime mieux, hein?
Moi, j'aime mieux ça.
C'est dans les affaires.
Oui.
C'est dans les affaires. C'est dans les affaires.
Voulez-vous entendre un vrai Cadien? Alors je vous présente Barry Turner, chapeau et bottes de cow-boy, pardon, de vacher. Son beau-père est encore plus authentique. À passé 80 ans, il ne parle pas trois mots d'anglais et a donc vécu une vie en français dans la campagne louisianaise. Mais à propos, c'est quoi un vrai Cadien ou Cajun? Barry Turner.
Un vrai Cajun, c'est un descendant de les Acadiens de l'Acadie. Et notre monde est venu de la France à l'Acadien et laïcite. Ah, c'était les exilés de l'Acadie dans 1755.
Ça veut dire que vous, vos ancêtres, sont venus ici vers cette date-là, à Lafayette.
Well, on aime dire ça, parce que mon cher Acadien m'a le fait. Parce que j'ai jamais pu trouver mes ancêtres passer la Grande Dérangement. J'ai trouvé mes ancêtres ici, dans la Louisiane, jusqu'à la Grande Dérangement. Là, je les ai perdus. Parce que le nom Turner, T-U-R-N-E-R, c'est pas même français. Mais je crois que ça a été Tournoir, T-O-U-R-N-O-R-O-R-I, avant que ça ait été changé. Mais...
Tournoir, oui.
Tournoir, parce que je peux pas le prouver, mais c'est ça, moi, je crois.
Mais alors, vous parlez les deux langues, vous parlez le français d'Acadie et l'anglais.
Oui, moi, je dis on parle le français parce que je me bats tout le temps avec ça. Notre français à nous, que nous autres on parle ici, je crois que c'est le vieux français de le 14e siècle. Je trouve ça bien touchant parce que le monde de la Paris vient, puis ça dit, gars, il parle le vieux français. Ça fait moi, ça me donne des douleurs dans mon cœur. Ça me fait du bien, ça, parce que c'est ça que j'aime dire. Nous, on parle le vieux français. Pas dire c'est le vrai français, ou quel c'est le vrai français, ou le mal, ou... mais c'est notre langue. Et c'est ça, moi, je peux prier dedans.
Et quand vous venez à Lafayette ou dans votre village, quand vous rencontrez des gens, vous leur parlez en quelle langue?
Si j'ai la chance, je vais parler en français parce que français, c'est la langue plus près de mon cœur. Dans la troisième grade, dans l'école, ils avaient pas moyen au Texas pour j'apprends à parler en anglais parce que je voulais pas parler à rien que français. C'était ma première langue.
Qu'est-ce que c'est qu'un Cadien? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce qu'il a une personnalité particulière?
Vous apprenez le mot pour le caractère d'un Acadien. Là, je ne connais pas. C'est une question qui m'est dure à répondre parce que, comme n'importe qui d'autre, on a des différents. Mais dis tout le temps, un Cajun, un pur Cajun, il va donner la chemise sur son dos s'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il va donner le dos de sa main ou la pointe de sa botte. Et il va faire n'importe quoi il peut pour t'aider parce que c'est une part de notre culture. C'est ça que nous autres, on fait. C'est ça qu'on les connaît pour.
Erline Broussard.
Ces gens-là conservent l'idée qu'il faut que ça soit de bouche à l'oreille et il faut que ça soit le français Cajun. Ils n'aiment
donc
pas.
Surtout pas le français de France.
Ils se méfient du fait que leur français et leur identité sera perdue, non seulement face à l'assimilation américaine et l'invasion de l'anglais, mais que le français louisianais est aussi attaqué par le français d'ailleurs.
J'ai remarqué, par exemple, que de nombreuses personnes mélangeaient les deux langues. Cela arrive fréquemment?
Pour moi, personnellement, je crois que ça, c'est tout à fait normal. Une culture, une minorité qui est envahie par un pouvoir comme l'anglais, parce que c'est vraiment, c'est puissant. Et tous les médias, c'est en anglais. Alors, on aime souvent dire que c'est ça, ça démontre comment on est à l'aise dans les deux langues. Parce qu'on se sert de l'anglais et du français sans s'apercevoir.
Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, des familles cadiennes qui freineraient l'apprentissage de l'anglais de leurs enfants?
Non, c'est impossible de freiner l'apprentissage de l'anglais même. Nous, on dit, le français, on l'apprend et l'anglais, on l'attrape. Parce qu'on va attraper l'anglais tout partout. Je veux dire, c'est dans la culture. Un jeune qui est dans les projets d'immersion, si leurs parents ont décidé, ils se sont engagés à enseigner à parler que le français, Leurs enfants vont quand même apprendre l'anglais avec leurs amis. Ils vont voir l'anglais à la télévision, à la radio. Quand ils sont jeunes, c'est possible de contrôler ce qu'ils font jusqu'à un certain âge. Puis à un moment donné, tous les enfants veulent s'intégrer un peu plus. Alors, on aime bien, des fois, on aime bien bêtiser, comme on dit nous. Parce que dernièrement, nous avons eu un radio, un poste de radio qui avait un émetteur assez puissant qui diffusait de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures, soleil levé à soleil couché tous les jours, que de la musique en français cajun, français louisianais, et il y avait un animateur, des animateurs qui parlaient que le français. Et alors, on aimait dire qu'on était peut-être la seule radio, le seul poste de radio au monde qui diffusait que en français, parce que il y a, avec la manie de diffuser pas mal d'anglais dans les médias en Europe et au Canada, peut-être la Louisiane était le seul endroit au monde où on n'avait que le français sur les ondes.
Mais aujourd'hui, Orline Broussard, il faut se lever tôt pour entendre le français à la radio, n'est-ce pas?
Malheureusement, c'est dans ce domaine-là que le mouvement qu'on peut appeler le développement du français en Louisiane, le colophile, nous n'avons pas pu réussir. Les médias coûtent très très cher et nous n'avons pas eu les ressources financières pour assurer la diffusion de programmation à la radio à des heures un peu plus intéressantes. Et surtout à la télévision, c'est un échec total. Il y a très peu de français vraiment qui est parlé. Il n'y a pas de richesse de langue. Vous voyez? Je veux dire, c'est une chose de raconter ce qui est la météo, puis de raconter deux ou trois petites choses concernant le climat dehors ou deux ou trois petites choses de nouvelles, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de richesse de langue.
Oui, à la radio non plus, c'est plutôt de l'animation entre 5h et 7h. Je disais que c'était tôt, remarquer que ce qui nous a frappé en Louisiane, c'est que les gens se couchent très tôt, mais alors se lèvent extrêmement tôt. C'est une habitude comme ça dans toute la Louisiane?
Mais je vous ai dit que nous avons une mémoire génétique. Nous sommes des paysans. Et les paysans se lèvent très, très tôt. Et ils se couchent tôt. Et ils croient pas qu'ils doivent être très loin de leur foyer et très tard. Et puis, ils ont l'habitude, quoi. Pas tout le monde, quand même, se lève à 5h. Et nous disons qu'il faut quand même être content que nous avons le dimanche. Parce que le dimanche, les émissions à cette radio à KRVS est de 6h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Alors, on passe le dimanche, qui est la journée de relâche au moins, où tout le monde, en principe, peut écouter. Il y a cette émission presque toute la journée.
Malheureusement, mes amis, c'est tout le temps qu'il y en a pour aujourd'hui. Le programme, c'est Michaud Mercredi avec Maurice Michaud tous les mercredis matin à 6h jusqu'à 7h avec la musique cajun de vieux temps. N'oubliez pas, mes amis, parlez français aujourd'hui et tous les jours de la semaine, surtout avec vos enfants et avec les vieux aussi. Et visitez les vieux aux maisons des aînés. Ça sera bon pour eux et bon pour vous autres. KRVS 88.7 FM à Lafayette, 90.5 FM à Lac-Charles, Radio Acadie pour Sud-Ouest de la Louisiane. Ça vient de les studios à Burke Hall, direct ici, dans l'Université de Sud-Ouest de la Louisiane, village de Lafayette. Un service culturel.
Yeltsin has arrived in Beijing for 3 days of meetings with Chinese leaders. I'm Bob Edwards. Today is Wednesday, April 24th.
Après la parole, l'écrit. David Cherami édite une revue qui s'intitule Feu Follet et qui réunit nouvelles et poèmes contemporains en langue française. Mais quelle langue française? David Cherami.
Bon, ça, c'est très divers. Bon, il y a des gens qui écrivent, comme je dirais, un peu à la Antonine Maillet, qui essaie de faire entendre l'accent par ce que j'appelle les manipulations orthographiques. Mais c'est surtout qu'ils essaient de faire refléter une certaine idée de la Louisiane dans ce qu'ils écrivent. Donc, ça peut être par l'orthographe, mais surtout par les thèmes. On a déjà publié aussi des Belges, des Français, etc., à condition qu'eux, ils écrivent sur un sujet louisianais, pour qu'eux, ils donnent leurs impressions de la Louisiane aussi.
Est-ce que vous avez aussi des créoles, par exemple, ou des Indiens, des Amérindiens qui écrivent en français?
Pas à ma connaissance, pas des Amérindiens, mais oui, on a des créoles aussi. Debbie Clifton, qui est créole, qui est qui écrit quelques-uns des plus beaux poèmes, je dois dire, que j'ai jamais lus en créole. En Louisiane, on était toujours en devenir pour retrouver, je dirais, nos propres références culturelles en français, parce que là, c'est ça la grande lutte, bien sûr, entre le français et l'anglais aussi.
Alors justement, quel français? Quelles sont les limites de ce qu'on peut appeler ici ou ce qu'on pourrait appeler un bon français ou un bon poème? Quels sont vos critères de qualité?
Les critères de qualité, je dirais que, on n'est pas du tout, sectaire. On écrit, par exemple, Zachary Richard, qui est très connu, qui écrit des très beaux poèmes, mais qui ne sait pas écrire, je dirais, du point de vue de l'orthographe. Lui, mais ça fait partie de son message aussi. Zachary a fait des études universitaires, il a vécu au Québec et en France, donc il connaît le français standard, mais il rejette ce français pour des raisons, je dirais, presque politiques, justement pour faire sentir que nous autres, les Cajuns en Louisiane, on n'a pas eu l'occasion d'être éduqué en français. Donc, on ne peut pas, on n'avait pas accès à ces règles d'orthographe et de grammaire. Nous, on n'est pas là pour faire une académie cajenne ou une académie française à la Louisiane, comme certains ont essayé de faire et comme dans certains le font toujours, je pense. Nous, notre but, c'est d'encourager les gens, de les pousser, de dire, oh, vous avez fait peut-être quelques fautes, mais on peut vous montrer que d'autres ont fait des fautes aussi. L'essentiel, ce n'est pas de faire une œuvre digne de l'Académie française, non, c'est de faire quelque chose dont on peut être fier, dont on est fier de montrer à ses amis, de lire en public, etc.
Est-ce que ce sont des gens qui s'expriment également en anglais à travers la poésie ou les nouvelles, ou uniquement à travers le français?
Bon, comme les gens qui écrivent dans les deux langues, parce que ça fait partie de notre quotidien, et même dans ce qu'on publie, et même ce que moi personnellement j'écris, l'anglais a une place aussi, je dirais pas une grande place, mais il y a sa place parce que ça fait partie de notre quotidien. Il est impossible de vivre en Louisiane sans parler anglais. On est aux États-Unis, mais on essaie quand même de faire de la place pour le français, de trouver cette place pour le français en Louisiane, même si on est conscient que ce ne sera pas la langue dominante comme c'était il y a des années. On essaie quand même justement de trouver une place, ne pas dominer l'anglais comme l'anglais a dominé le français, mais quand même de trouver une place côte à côte, le français et l'anglais.
Et vous pensez qu'en ce moment, le renouveau du français en Louisiane est en bonne voie?
Je trouve que c'est en excellente voie. Nous avons des programmes d'immersion française dans plusieurs écoles ici en Louisiane, notamment à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, au lac Charles, un petit village qui s'appelle Pierre-Part, à la pointe de l'église, etc. Donc c'est dans des grands centres urbains, je dirais, pour la Louisiane, ce qui ne veut pas dire grand-chose, je dirais, mais aussi dans des petits villages comme la pointe de l'église, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui se généralise de plus en plus. Je prévois qu'il y aura d'autres écoles aussi de langue française, d'immersion française qui vont se faire, qu'il y aura d'ici 20 ou 50 années, je dirais, vraiment une bonne population bilingue mais formée dans les deux langues, parce que les Cajuns qui sont allés à l'école, l'école était uniquement en anglais. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui parlent français, il y en a très peu qui le lisent, qui l'écrivent. Et ceux qui l'écrivent, justement, ils ont appris par le biais du français standard. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces échanges, je dirais, entre le français standard, le français cajun, le français créole et l'anglais.
Well, je parlais le français, c'est ma première langue que j'ai appris à parler, c'était le français. Et tout ma famille, les deux bords, mon père et ma mère, ça parlait tout le français. Et il y en a un temps qui n'était pas indiqué, que ça ne pouvait pas lire et parler l'anglais du tout. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. Là, j'ai appris à parler l'anglais quand j'ai commencé la première grade à l'école. Et pour un bout de temps, on a été puni pour parler le français. Parce qu'on n'a pas essayé de quitter le français puis essayer d'attraper la balance des États dans les États-Unis pour l'anglais. Mais on a toujours tenu notre langue française.
Quand vous dites qu'on était puni quand on parlait le français, ça veut dire quoi, puni?
Oh, ça nous faisait écrire des langues, mais ça nous faisait rester après l'école ou nous mettre à genoux sur les genoux pour une punition, pour nous empêcher de parler le français. Et parler justement l'anglais, ça fait comme ça on pouvait oublier le français puis venir plus égal avec la balance du pays dans l'anglais. Et après deux, trois ans, ils ont arrêté de faire ça à l'école, ça fait un goût de parler le français aussi. Le français, well, c'est une bonne partie de mon héritage, et c'est comme ça que état de ma famille et moi, c'est comme ça on a conversé, c'était en français. Et c'est une partie de ma vie.
David, cher ami, quelles sont vos origines?
Mes origines, moi je suis Kadjan, mais je parle avec un accent français parce que c'est en France que j'ai appris à parler français. Et je dois dire que personnellement, c'est une lutte parce que mes enfants aussi parlent français. J'ai épousé une Française. Mais mes parents sont toujours de cette génération qui a été stigmatisée, que le français c'est la langue des ignorants, le français c'est basse classe, etc. Et j'encourage mes parents le plus possible de parler en français avec mes enfants. Ils sont francophones. Mes parents et mes enfants sont francophones depuis la naissance. Moi, j'ai appris l'anglais d'abord. Mais ça m'enrage de les voir se parler en anglais. Mais c'est un fait que je dois accepter, que c'est... Pour mes parents, ce n'est pas un réflexe, et pour beaucoup de cas de cette génération, ce n'est pas un réflexe naturel, je dirais, de parler aux enfants en français, même s'ils savent très bien que ces enfants parlent français aussi.
On a parfois entendu accoler au mot Kadjan ou Kadien le mot honte. C'était exact pendant une certaine période. C'est ce que vos parents ont ressenti?
Ils l'ont ressenti. C'est les écoles certainement qui l'ont fait ressentir aussi quand il y avait une politique de suppression de la langue française dans les écoles où les enfants étaient littéralement battus, tapés sur les doigts avec la règle en bois. Ils étaient à genoux sur du maïs cassé, etc. Des humiliations, des punitions qu'aujourd'hui, qui sont plus imaginables dans notre société, mais qui ont existé, qui ont laissé des traces, je dirais, très profondes. Et c'est par le biais de la littérature, de la valorisation de la langue française qu'on essayait de dépasser ces stigmates et cette honte.
Quel regard les Américains de langue anglaise jettent sur vous?
Comme beaucoup d'Américains, je crois qu'ils peuvent se permettre de nous ignorer. Mais nous, on ne va plus se laisser ignorer de la sorte, justement avec de plus de manifestations, en publiant en français, en réclamant notre télé en français, avec TV5 International. Mais les Américains, je crois qu'en général, ils nous regardent un peu en touriste. Là, c'est sûr que la musique... Et la cuisine cajun sont très, très populaires aux États-Unis, mais c'est un phénomène qu'avec d'autres groupes ethniques, comme les Mexicains ou je sais pas, n'importe quel groupe ethnique, les Polonais, etc., où la musique et la cuisine, curieusement, deviennent des agents d'assimilation, deviennent plutôt assimilés dans la culture américaine. Mais je crois que ça c'est notre problème, parce que pour définir ce que c'est la culture américaine aussi. Mais nous avons notre culture et si les Américains aiment la musique, s'ils aiment notre cuisine, tant mieux. S'ils n'aiment pas nous entendre parler en français, mais ça c'est tant pis pour eux.
Quand vous parlez en américain avec un Américain, est-ce qu'il se rend rapidement compte que vous êtes d'une autre culture, que vous êtes cadien?
Je dirais, on parlait d'accent tout à l'heure, je trouve qu'en anglais, c'est peut-être là où mon accent cajun se fait entendre plus, parce que c'est vrai que nous parlons l'anglais d'une façon spéciale aussi en Louisiane, justement sous l'influence non seulement du français, mais du fait que nous sommes dans le sud des États-Unis où on a une certaine façon de parler aussi. Est-ce que les gens se rendent compte? Je ne peux pas dire. Peut-être de temps en temps, si... je dis certaines choses, oui, il y a des marques de reconnaissance qui font que, bon, ils ressentent une différence, mais exactement ce que c'est cette différence, si je ne le dis pas, ils ne vont pas savoir, parce que l'idée que les autres ont des Cajuns, c'est toujours très, très stéréotypé, très négatif, je dirais même. On n'a qu'à voir certains films, certaines émissions à la télévision où les Cajuns ont été représentés, mais on est des bêtes sauvages qui tuent le voisin parce qu'il a... je sais pas, oser marcher sur le mauvais côté du chemin ou je sais pas quoi, des ivrognes, etc. Et ça, c'est une image aussi qu'on essaie de défaire.
Est-ce que vous avez quelques ressemblances dans cette image que vous projetez encore avec, par exemple, les Indiens?
J'ai beaucoup d'affinités pour tous les groupes ethniques qui essaient de définir ce terrain culturel américain, mais sans se faire totalement assimiler à ce grand rêve américain, l'Amérique blanche, l'Amérique protestante, l'Amérique anglo-irlandaise, et même les Irlandais, dans une certaine mesure, j'ai beaucoup d'affinités pour eux aussi.
À vous entendre, quand on pense aux Mexicains qui arrivent maintenant de plus en plus, quand on pense aux Indiens ou aux Cajuns ou aux Irlandais, on se demande ce qui reste de l'Amérique. Il en reste quoi des Américains blancs?
Je crois que c'est pour ça qu'il y a cette grande crise d'identité. On parle beaucoup des angry white male, le mâle blanc est en colère aux États-Unis, mais je crois que c'est une partie de ça, c'est qu'enfin, quelqu'un a osé enfin questionner son autorité. On a enfin osé supposer que peut-être les WASPs, comme on les appelle, les anglo-saxons blancs et protestants, ne sont pas les maîtres absolus de ce pays. Et pour moi, en ce qui me concerne, dans l'histoire américaine, c'est que l'Amérique a toujours été un pays multiculturel. On est tous des immigrés, on vient tous d'ailleurs, sauf les Amérindiens. Et les Amérindiens, de toute façon, on les a fait se déplacer sur le territoire américain plusieurs fois, de toute façon. Donc, on est un pays en mouvement, un pays mobile plutôt. Et je pense que ce qui reste de l'Amérique, ce sera toujours ce qu'elle a été. C'est une quête d'identité. On est tous sur la route, comme disait Jack Kerouac. Et je crois que c'est l'Amérique, c'est quelque chose qu'on cherche toujours. Et je crois que ce qui est en train d'être détruit, c'est ce mythe que l'Amérique a été construite par les Blancs, les Anglais, etc. Et quand on détruit des mythes, ça, c'est beaucoup plus dérangeant.
Charles Larocque, la Louisiane a-t-elle un avenir francophone?
Le passé est sûrement francophone, donc si on réussit à faire le lien, ou le pont si on veut, entre le passé et l'avenir, on va arriver à sauvegarder ce qu'on a. Et par le biais de l'économie, je souhaite qu'on soit capable de donner des options économiques aux jeunes pour qu'ils utilisent le français d'une manière économique, non seulement culturelle, mais économique, pour montrer que le français, on peut faire sa vie en français. C'est pas juste une affaire de folklore, mais c'est quelque chose qui pourrait donner des opportunités économiques là.
Vous, votre vie, vous la faites en français?
Je fais ma vie en français. J'ai épousé une Québécoise. Nos enfants, on leur parle en français. Je travaille, je suis enseignant de français et cette année je suis en congé. Je travaille sur un projet de mettre le français dans le curriculum, un cursus en français pour le tourisme. Donc pour moi c'est plutôt facile, mais pour bien d'autres c'est pas aussi évident.
Le Corps de on a fait faire des t-shirts avec les noms de toutes les associations qui aident à sauver le français en Louisiane. Les t-shirts coûtent 10 piastres, ça c'est le prix, c'est même moins cher que nous on a dû payer pour les t-shirts. Ils nous ont coûté 10 piastres et 50 sous. Mais on voudrait que tout le monde en achète un. Ils nous ont dit que les t-shirts au Festival International va coûter 18 piastres, parce que c'est pas un mauvais deal. On aimerait vous inviter de les regarder. On a grand et bien grand. Merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'expressions cadiennes?
Oh, mais oui, je veux dire, nous on dit plutôt dire bonjour, comment allez-vous? On dit, hey, bonjour, quoi ça dit? Et il y a du monde qui dit aussi, ça se plume?
veut dire?
Ça veut dire si ça va bien. Par exemple, quand on veut faire un gombo, il faut d'abord tuer la poule. Et pour nettoyer la poule, pour enlever les plumes, il faut la submerger dans de l'eau bouillante pour enlever les plumes plus facilement. Alors, si nous savons faire très bien, ça se plume facilement, tu vois. Alors, c'est un peu tout ça, le sous-texte. Est-ce que vous savez bien vous débrouiller, ça se plume? Nous, on dit, par exemple, « à cette heure » plutôt que « maintenant ». Ça, c'est très cajun, mais ça, c'est du vieux français. Notre français a été un peu figé dans l'histoire parce que les Français qui sont venus comme colons au Nouveau Monde, ils avaient les expressions et la prononciation au Poitvin, souvent. Par exemple, moi, je dis « berouette ». Berouette, et pas... Je me souviens même pas plus comment ça dit en français, vraiment. Brouette, un outil pour...
Pour le jardinage.
Pour le jardinage. Il y a des exemples que nous, on dit de différents... On n'a pas le même article. Nous, on ne dit pas... Le Cajun dit jamais le bol. C'est la bol. Et c'est la crabe. Et c'est la serpent.
Et pendant que vous y êtes, une crevette, c'est une chevrette.
Voilà, c'est une chevrette. Et si on vous a expliqué ça, c'est un nom... Et c'est un mot dans le littré, c'est un mot dans le dictionnaire. C'était une qualité de crevette, de l'eau douce, etc. Bon. Alors, une chose, nous on dit de la barbue. On ne dirait jamais du poisson-chat. Et une chose qui est très difficile pour nous linguistiquement, c'est que d'habitude les Français sont très élitistes. Quand ça vient à la langue, ils viennent ici pour nous montrer le bon français. Et c'est vraiment pas juste. Parce que les Français ne savent pas leur propre langue. Quand on dit poisson-chat, ça, c'est une traduction littérale du mot catfish, qui est anglais. Et c'est pas du tout ça. C'est une barbue. Nous avons des mots qui viennent du français depuis longtemps. Nous avons une vocation aussi d'expliquer, de faire comprendre, de faire respecter le français louisianais, de surpasser les barrières d'élitisme pour pouvoir se comprendre. C'est absurde de rester sur des petits détails linguistiques quand on peut se comprendre, parce que le but à la fin de compte, c'est de se connaître mieux et de se respecter encore mieux. Et si quelqu'un vient ici essayer, prétendre de me montrer comment parler le français, pour moi c'est nettement trop osé. Les Louisianais parleraient beaucoup plus le français avec les francophones mondiaux si on les respecterait plus. Parce que si vous avez visité avec des Louisianais, ils disent souvent, « Oh, well, I speak French, but I don't speak that good French. » Je parle un peu français, mais ce n'est pas le bon français.
Ça, c'était le parler des Acadiens des Bayou Louisianais pour aujourd'hui. Et la prochaine chanson, c'est quelque chose qui s'appelle « Chinook Bob ». Et « Black Mountain Rag » par les Bon Tones.
Voilà, c'est joli ça, c'est de la jambe, c'est comme un petit oiseau, voilà, faire une serrette. Woody Degg nous visite ce matin. Woody, tu fais ça tous les ans, hein?
Oui, ça, on joue de la musique ensemble, et ils seront aussi dessus le radio show samedi au soir à Church Point, dans Narasa.
Ça c'est à 6h30, ils vont broadcast. Et les dames Cajun font l'accueil à ces visiteurs. Ils vont aider à faire le show à la radio sur KSLO.
Hélène, le bal de tu en as reçu, je pense c'était hier. J'ai fait contact avec un jeune homme de... Oh, qu'est-ce que c'est qu'il m'a dit de ce nouveau CD? Ah, je me rappelle pas. Peut-être c'est Benoît Leblanc qui m'a dit.
David Chérami, quels sont les lieux où la culture cadienne peut s'exprimer aujourd'hui en Louisiane?
Je dirais que c'est surtout dans le temps des festivals, peut-être. Ça, c'est sa manifestation la plus publique, certainement. Quand nous avons beaucoup de festivals pour fêter notre héritage par le biais de la musique. J'avais des amis, je les ai toujours d'ailleurs, dans la Nouvelle-Angleterre, qui s'appellent eux les Franco-Américains. Et eux, ils ont beaucoup de ces mêmes problèmes aussi par rapport à la langue française et la culture anglaise encore plus fort parce qu'eux, ils sont carrément chez les Yankees là-bas dans la Nouvelle-Angleterre. Et il me disait, tu sais ce qu'on vous envie le plus, c'est la musique. Et c'est là où peut-être c'est encore permis socialement à 100% de s'exprimer en français, c'est en chantant en français. Mais de plus en plus, on peut encore s'exprimer dans les affaires, dans les commerces, parce qu'il y a plus en plus de gens qui se rendent compte que c'est un petit monde. Et pour être compétitif, il faut parler plusieurs langues, il faut ouvrir des marchés ou aller sur des marchés internationaux. Et donc, je dirais qu'on peut trouver son identité cajun, on l'exprimer plutôt un peu n'importe où, mais et encore, il faut savoir où. Et ce n'est pas encore évident, mais il faut être dans le réseau, je dirais.
David Cherami, d'où viennent vos ancêtres ?
Oh, mes ancêtres, bon, je suis américain, donc la plupart de mes ancêtres viennent de la France et de l'Acadie, mais aussi j'ai un peu d'allemand aussi dans mon arbre généalogique. Mais pour moi, ça, c'est pas l'important. Je sais que beaucoup de Cajuns, ils sont très branchés, si j'ose dire, sur les arbres généalogiques. Mais moi, c'est pas vraiment mon passé en tant que tel pour savoir qui était le grand-père de ma grand-mère et les choses comme ça. Mais c'est plutôt pour savoir qui vont être mes petits-enfants, plutôt, c'est ça. Et moi, je suis plutôt tourné vers le futur parce que moi, j'ai pris connaissance de mon histoire, de mon passé. Et sur ça, je n'ai plus de doute. C'est même si, comme j'ai dit, j'avais un grand-père, par exemple, qui est venu de l'Allemagne, mais juste avant la Première Guerre mondiale. Il est retourné en tant que citoyen américain en France, parce qu'il parlait français, il se battait pour l'armée américaine en France contre les Allemands. Donc, pour moi, ces histoires culturelles, même s'il y a une question de race maintenant, comme on dit, qui rentre dans le jeu, je crois que c'est aussi une question de choix personnel aussi, parce qu'on est quand même libre et on peut faire... Moi, j'aurais pu faire le choix de ne pas apprendre le français, faire le choix de vivre comme n'importe quel Américain dans le Kansas ou le Kentucky, mais moi, j'ai fait le choix de vivre comme un Cajun en Louisiane.
Olive Ardouin. Chez notre père, il y en a été élevé, on parlait juste le français.
Vos parents parlaient l'anglais un peu?
Il y en a, cette heure, oui. Mais dans ces temps-là, ça ne parlait pas en anglais. Ça parlait juste le français.
Et à l'école, vous parliez français?
Non, on était punis sans parler le français à l'école.
Vos parents venaient d'où?
Ça vient de l'autre bord. C'est là d'où mes grands-pères et mes grands-mères et tous les autres deviennent. Ça venait de l'autre bord. Mon père, à moi, il est venu de l'île de Corsica, au ras de la France.
De Corse?
Mm-hmm, de la Corse, uh-huh.
Et vous, vous avez des enfants?
Oui, j'en ai trois.
Ils parlent le français, eux?
Ils n'ont jamais voulu apprendre à parler le français. On pouvait les donner quelque chose à faire, les dire quoi si on voulait savoir faire, ça allait le faire. Mais ils ne nous ont jamais parlé un mot en français. Parce que leurs amis ne le parlaient pas.
Aline Broussard, quel type de relation est-ce que le Cadien entretient avec les États-Unis? Est-ce que c'est son pays? Est-ce que la Louisiane, c'est vraiment son pays? Ou bien est-ce qu'il rêve de son passé ou d'un futur qui serait dans un autre pays francophone, pour ne pas dire la France?
Oh, mais non, le Louisianais aime bien son pays. Il est bien dans sa peau ici, il aime bien sa nature, il est habitué au maringouin, il est habitué à la chaleur. Et je suis tout à fait convaincue que le Louisianais veut être ici et il veut avoir une réalité francophone dans cet espace-ci. S'il a l'opportunité de visiter la France ou la Belgique ou le Québec ou les Maritimes, bon, tant mieux, il est content de le faire. Mais la plupart des Cajuns sont pas des voyageurs. La plupart des gens qui sont des francophones en Louisiane, ils mériteraient de se sentir tout à fait libres de bâtir une francophonie ici en Louisiane qui se distingue et qui est déjà différente, mais ils doivent se sentir libres de le faire parce que je crois pas que honnêtement, le Cajun ne s'intéresse pas à recréer la France ici ni la Belgique. Ils connaissent très mal ces lieux-là. Ils ne sympathisent pas très bien avec les étrangers tout de suite. Même qu'il est très accueillant, c'est quand même assez curieux. Il veut être très accueillant et il va être très chaleureux pour vous inviter à son foyer, mais il ne te prend pas dans son cœur tout de suite. Parce que si quelqu'un est condescendant, s'il essaie de te ridiculiser, s'il essaie de te reprendre, c'est foutu avec le Kadjar. Je veux dire, il va tout de suite comprendre que tu n'as pas de respect pour lui.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 août 1996.